C'est comme une vocation, j'ai toujours pensé que j'étais fait pour triompher à Question pour un champion, l'éternel quiz de culture générale de la troisième chaîne, l'encyclopédie parlante posée comme un énorme glaçon sur le frigo de mes grands-parents. Quand l'indice s'affichait, je le cachais avec la télécommande sans que cela ne nuise jamais à la précision de ma réponse. Pour m'exercer à buzzer le plus vite possible, je m'étais fait offrir aussi le jeu Quizard, une sorte de Trivial Pursuit électronique et arachnéen. J'étais fait pour gagner à Question pour un champion, mais ce que je convoitais vraiment, c'était les lots de consolation des perdants, toutes ces encyclopédies Larousse du cinéma, des champignons ou du vin. J'en étais cependant arrivé devant une telle débauche bibliophilique à me demander s'il n'y avait pas une contradiction gödelienne dans Question pour un champion. Le seul moyen de posséder ces outils pour gagner ne consistait-il pas à perdre? La télé de mes grands-parents, devenue un écran plat, a fini par fondre et je ne me suis jamais inscrit à Question pour un champion. Cela fait plus de 25 ans que je n'ai pas joué au Trivial Pursuit et que mon Quizard est cassé. J'ai assisté de mon vivant au déclin et à la mort de la culture générale et à son remplacement par des smartphones, la seconde grande extinction après celle due à l'invention de l'écriture de nos capacités cérébrales. Alors je continue, pour moi seul ou par empathie pour l'espèce savante que nous avons été, à faire défiler pour m'endormir des pages de Wikipédia. J'ai même connu à un moment, comme j'ai su le code qui permettait de faire apparaître un hélico dans GTA, la combinaison de touches qui permettait d'accéder à une page au hasard et de devenir, l'espace d'un instant, un robot indexeur. Cela me rappelle la guerre secrète qui a opposé il y a quelques années le botaniste Linné à Adolf Hitler, quand des robots indexeurs, lâchés à travers les pages de Wikipédia, ont voulu savoir laquelle des deux personnalités avait le plus d'influence sur l'encyclopédie. Cela s'était joué entre ces deux-là, entre l'ami des plantes, celui qui leur avait donné leur nom moderne, et l'ennemi du genre humain. Compétition qui devait ravir ces robots post-humains. Je cherche un homme, j'y avais mis moins de cynisme en faisant défiler, comme sur Grindr, des visages impassibles de joueurs de hockey canadiens ou des villages de l'arrière-pays croate, la règle étant de faire défiler ainsi les pages jusqu'à tomber sur un article qui m'intéresse enfin, et idéalement apprendre son contenu ou assez d'éléments pour faire croire qu'on en sait beaucoup plus. Réciter Wikipédia, devenir la aide de l'encyclopédie en ligne, c'est rester un peu en deçà d'un genre littéraire véritable, ma grande passion sur cette terre. Alors, je me lance de mémoire. Le dernier article qui m'a véritablement fasciné portait sur un événement dont j'ignorais tout, du nom des acteurs qui l'a mobilisé à son existence même, mais ce nom était trop tentant pour que je n'y aille pas, la crise moderniste. J'ai ainsi appris qu'un certain Alfred Loisy, en 1902, avait publié un livre appelé « Les Évangiles et l'Histoire », qui se voulait une sorte de réponse argumentée et pieuse aux deux stress tests majeurs qui venaient d'affecter le catholicisme, l'exégèse allemande et l'évolutionnisme anglais. Très vite, dès 1907, le livre avait cependant été condamné par une encyclique. Je ne me souviens plus des détails, mais je suis certain d'avoir vu passer l'excommunication de Bergson et l'existence d'un service secret anti-moderne, la Sapinière. La crise profonde devait en tout cas déboucher. On était, noté avec intelligence un historien cité par Wikipédia, dans un événement plus proche de l'évolution culturelle que de la brusque poussée hérétique, qui devait déboucher donc sur la réunion d'un concile. Et c'est là ce qui m'a véritablement fasciné. Soudain, le XXe siècle était entièrement renouvelé. Il m'apparaissait sous l'aspect inattendu d'un grand siècle religieux couronné par le concile Vatican II. J'ai même noté pour plus tard de me pencher sur les œuvres d'Henri de Lubac et de Teilhard de Chardin, dont les auteurs n'avaient pas tout à fait réussi, malgré leur rare excellence théologique, comme Origène avant eux, a triomphé tout à fait d'une réputation d'hérétique qui les retenait d'être jamais considérés comme des docteurs de l'Église. Devenir docteur de l'Église, je ne sais pas si j'ai toujours le goût de la compétition que m'avait autrefois inculqué Julien Lepers, mais je me suis dit soudain que c'était là un challenge situé un cran au-dessus d'une victoire à Question pour un champion.